Chose.
Et en bonus, Chris Rock, grand showman américain, acteur dans Two Days in New York de Julie Delpy.
Oh, come on, Frenchie, you're gonna be good.
It's over.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Avec Christine Masson.
Radio.
Et Laurent Delmas.
France Inter. La différence.
Et vous avez rendez-vous maintenant avec la Bassie J'y suis, avec Daniel Mermet et bien sûr, bip bip.
Salut à tous, c'est vrai que ces derniers temps on a beaucoup parlé des événements de Toulouse, ce qui est complètement logique vu l'ampleur du drame, mais il y a un événement qui est un petit peu passé inaperçu, c'était trois jeunes filles de la même famille qui se sont fait écraser sur l'autoroute après s'être fait expulser du train parce qu'elles n'avaient pas de quoi payer leur billet, qui se sont retrouvées sur l'autoroute. Et c'est vrai que trois jeunes filles entre 12 et 19 ans de la même famille, mais c'était des gens du voyage, donc ça a certainement moins d'importance. Il n'y a pas eu de minutes de silence ni de déplacement des candidats au présidentiel. On ne sait pas s'il y a eu une enquête pour savoir pourquoi elles n'ont pas été ramassées par le gars d'Escota, comment elles se sont fait écraser. Il paraît qu'elles étaient méconnaissables à identifier. Donc voilà, ça me fait toujours chier quand il y a le projecteur qui est balancé d'un côté et qu'on oublie tout le reste. Donc j'avais une pensée pour la famille de ces trois jeunes filles. Allez, vive.
Bonjour Daniel, bonjour à tout le monde. Voilà, bon, on va changer de chanson politique là. J'entendais Bernard Guetta ce matin qui a tenu un discours sur les Trente Glorieuses que j'ai trouvé vraiment formidable. Parce que je fais partie des Trente Glorieuses, je suis né en 1942, j'ai commencé à travailler puisque de suite 42, j'ai quitté l'école à 13 ans et demi, j'ai pas eu mon certif parce que j'ai pas été le passé, et j'ai fait des travaux très très durs. Et j'ai évolué tout seul, mais branque-ballement, on a fait à l'époque, on avait des contrats de 47h50, j'ai essayé de faire vite, et c'était pas tout rose, hein, les water sur le palier, la pierre à évier, enfin, depuis tout jeune comme ça, jusqu'à mes 35 ans où j'ai pu enfin m'acheter un petit appartement en travaillant très très dur. Avec les deux chocs pétroliers, les menaces de chômage, perte d'emploi, changement tous les six mois de boulot. Et voilà, enfin, c'est pas ce qu'ils disent, on n'avait pas des téléphones portables, il a bien raison. Enfin, on avait tout, on n'avait rien, quoi. On n'avait rien, des vieilles bagnoles d'occasion, heureusement qu'il n'y avait pas le contrôle technique, et du camping, et les enfants brinque-ballon parce qu'on faisait des 12 heures par jour avec la crèche, et ainsi de suite. Faudrait en parler, faudrait que ça passe un petit peu, qu'on arrête de nous assommer en nous disant qu'on est des égoïstes, qu'on n'a jamais payé, alors qu'on a toujours payé comme des mulets en faisant des heures supplémentaires, des 60% sur le salaire, et ainsi de suite. Voilà, salut Daniel, c'était Jean-Paul de l'Essonne.
Salut Daniel, on t'appelle en direct du rectorat de Créteil, là, on est lycée professionnel André Sabatier de Bobigny, dans le 9-3. On est en grève depuis presque 3 semaines maintenant. Alors, comme le gouvernement ne sait plus comment faire pour supprimer le nombre de postes de profs, pour rembourser tout le fric qu'ils ont donné aux banquiers, le nouveau truc qu'ils ont trouvé, c'est de fusionner des établissements scolaires entre eux, comme ils le font déjà en douce dans certaines académies. Alors, derrière une fusion, c'est comme une fusion-acquisition hein, dans le privé, le but c'est de supprimer un maximum de postes. Alors, chez nous, au lycée Sabatier, l'an prochain, c'est le poste de proviseur qui est supprimé. On nous impose donc une direction unique avec un autre lycée de Bobigny. Et alors on nous parle déjà d'une mutualisation des services qui irait jusqu'à une infirmière seulement pour deux lycées notamment. Alors ils sont en train d'essayer de créer un lycée professionnel de plus de 1000 élèves, avec moins d'adultes en plus pour encadrer les jeunes, sachant qu'en plus on est déjà dans le 93 et qu'on se heurte à quand même à beaucoup de difficultés sociales.
Bonjour à tous, repéré de là-bas si j'y suis, de Rosé d'ailleurs. Si vous voulez bien, demain, jeudi, comme chaque dernier jeudi de chaque mois, nous vous invitons à nous rejoindre au Canon à pattes pour discuter autour d'un sujet de société et cerise sur le repère, demain nous pourrons profiter du soleil sur la terrasse. Cela ne doit pas nous empêcher d'aborder sérieusement notre thème de débat, médias, informés ou désinformés, à qui ça profite. La presse est en pleine mutation de support ou de mode de diffusion, mais est-ce que cela nous promet plus d'objectivité? L'actualité des élections présidentielles nous donne matière à s'interroger, et ce malgré la toute-puissance du CSA. Le choix des informations diffusées et la place qui leur est faite peut suffire à animer toute notre soirée. Mais où est passé l'esprit critique? Donc, si vous voulez aussi partager vos opinions sur ce sujet, vous êtes tous les bienvenus au Canon à pattes, rue Alsace-Lorraine, à Rosé, à partir de 19h30.
Salut la radio, je profite du répondeur de la base si j'y suis pour laisser un message. Il s'agit d'une petite librairie à la devanture bleue 38 rue Keller dans le 11e arrondissement qui est menacée parce que ses murs ont été vendus pour en faire un commerce de vêtements et cette petite librairie qui est là depuis 17 ans et qui fonctionne aujourd'hui avec des bénévoles et qui promeut les éditeurs indépendants en leur fournissant une vitrine parce qu'ils sont souvent bien mal diffusés et donc en danger. Et on appelle tout le monde à la soutenir. La mairie du 11e n'a pas préempté ce commerce. Nous avons rendez-vous avec elle pour voir ce qu'ils vont proposer. Mais voilà, nous vous appelons aussi à une réunion jeudi soir à 19h, 38 rue Keller, à la librairie Lady Long Solo. Merci à tous et à bientôt.
Voilà, et là-bas, si j'y suis, soutient cette librairie. Espérons qu'elle restera ou qu'elle pourra rester dans le quartier et que dans la vitrine de cette librairie, on verra un livre qui sort ces jours-ci, signé de Eric Hazan et Eyal Sivan, Un état commun entre le Jourdain et la mer. C'est un livre absolument passionnant dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez déjà compris, un état commun Israël-Iran, Israël-Palestine, Israël-Liban, tensions quotidiennes, risques permanents avec des puissances extérieures impliquées qui manipulent les pions et les pions qui n'en finissent pas de déstabiliser la région avec dans nos sociétés jusqu'ici un peu partout des conséquences qu'Edgar Morin avait comparées à des métastases, le cancer étant le conflit israélo-palestinien lui-même. Et depuis cette déclaration, enfin cette considération d'Edgar Morin qui lui avait valu beaucoup d'ennuis, le sujet est presque devenu tabou chez nous, en France presque exclusivement. Stéphane Hessel, vous le savez, est très critique envers la politique d'Israël par rapport à la question palestinienne, par rapport à Gaza. Eh bien, il se fait attaquer, et on peut dire insulter, par un petit noyau d'ultrasionistes français qui n'en finissent pas de s'exciter pour imposer, non sans succès, un véritable terrorisme intellectuel sur ce sujet. Même s'il y a un certain consensus sur la question de ce conflit, tout le monde s'accorde à dire oui, il faut un État palestinien, allons vers un État palestinien, poursuivons le processus pour la construction d'un État palestinien. La solution, c'est deux États, l'un à côté de l'autre. Alors, tout le monde est d'accord, peut-être pas tout à fait. Certains disent ce n'est pas une solution, mais un discours. Il faut en finir avec l'idée de la partition et la remplacer par celle de partage de ce pays. Ceux qui disent ça, eh bien, c'est nos deux invités d'aujourd'hui, Eric Hazan, que vous connaissez, qui est écrivain, spécialiste de Paris notamment, et qui est éditeur aussi, c'est les éditions de La Fabrique. Et puis, Eyal Sivan, qui est israélien, et qui est cinéaste, documentariste, et qui, dans ce petit livre, donne un film qui s'appelle État commun, et comme le titre du bouquin, et qui est, c'est tout à fait formidable ce film, c'est des dialogues entre toute une série d'intellectuels palestiniens et toute une série d'intellectuels israéliens sur la question d'un État commun. Est-il pensable que Israël et la Palestine deviennent un seul État commun? C'est un vieux rêve. C'était celui d'Edward Said, l'intellectuel palestinien dont on a souvent évoqué les idées dans cette émission. Et on va voir que c'est une idée bien plus ancienne que ça. En tout cas, nos deux invités, Eric Hazan et Eyal Sivan, s'engagent pour défendre l'idée d'un État commun entre le Jourdain et la mer. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'appelle pour signaler que demain, mercredi 28 mars, à Draguignan, à la MSJ, en face de la gare, il y aura une réunion public d'information par le collectif Non Gaz de Schiste Draguignan. Nous avons monté dans le Var depuis quelque temps plusieurs collectifs qui se joignent tous au collectif général du Var. Et aussi pour parler du futur Trafalgar du gaz de schiste le 8 avril à la Seyne-sur-Mer au parc de la Navale. Et ça c'est très important parce que c'est un immense rassemblement pour dire non au gaz de schiste en terre, mais pas seulement dans le Var. Tous les collectifs de toute la France descendent en bus, donc renseignez-vous. Et à midi, pique-nique festif et première manifestation sur l'eau d'importance, puisque tous les ports de toute la côte et jusqu'à la Corse vont se mobiliser pour dire non au forage en Méditerranée, d'autant qu'on vient d'entendre que Total est en train d'avoir des fuites de gaz en mer du Nord, voilà.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, et merci encore pour cet espace subversif du PAF. Je viens vous annoncer que du 29 mars au 1er avril, à Fontenay-le-Comte en Vendée, les médias sont dans la ligne de mire des premières rencontres cinématographiques de Fontenay-le-Comte en Vendée. 3 jours de cinéma avec des cinéastes, Gilles Balbastre, William Carrel, des penseurs pleins, des dessinateurs de presse pleins aussi. 12 projections, dont celle des nouveaux Chaînes Gardes, vendredi 30 mars à 20h. Venez nombreux. Merci à vous. Bon courage à là-bas si j'y suis.
Salut Daniel. La Martinique a son repère depuis plusieurs mois. Le prochain rendez-vous, ce sera le lundi 2 avril à 18h au restaurant La Lanterne au Carbet. Le thème retenu pour cette rencontre est « Démocratie et représentation citoyenne ». Lundi 2 avril, 18h, La Lanterne. Et n'oubliez pas, le vote utile est un poison d'avril. Salut !
Salut, c'est Gabriel de Barcelone. Bon, ben ici en Espagne, les indignados continuent à travailler. On a fait un gros bout de chemin depuis le 15 mai dernier. On s'est organisé en assemblée, de quartier, de village, par commission thématique. On a même lancé une grande consultation populaire. Bref, la démocratie ne se résigne pas. Et entre-temps, on s'est quand même fait réformer la Constitution en douce, sans référendum. Et la droite a fait passer une réforme du droit du travail qui, à elle seule, vaut bien un triple A. Et la grève générale, me direz-vous, c'est pour bientôt? Eh bien oui, et c'est même demain, 29 mars. Donc le Café Repère de Barcelone, c'est ce soir, à 20h30 au Glaciar, comme d'habitude. Salut et resistencia.
Bonjour les ANG. Eva Joly, la seule erreur qu'elle ait faite, c'est qu'elle s'est juste trompée de parti. C'est au fond de gauche qu'elle aurait dû être. L'écologie à grande échelle, ça n'intéresse pas les militants. Ils ont une vision bien trop étroite du problème. Ça les intéresse juste au municipal. La planète, ils s'en foutent. Eva Joly, je l'aurais bien vue avec Attaque. On a le même souci écologique et social. Et puis, j'ai un très gros reproche à faire à France Inter. Qu'est-ce que c'est que ces infos toutes les heures? On croirait qu'ils lisent le journal détective. C'est juste de l'événementiel. Ça pue. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Eric Kazan et Yal Sivan, un état commun entre le Jourdain et la mer. Flight number 2, arriving from New York. Bon, alors c'est une heure très heureuse qu'on va passer ensemble, amis auditeurs, amis auditrices, parce qu'on a la solution. On a la solution à un des problèmes les plus compliqués. C'est la question israélo-palestinienne. Alors, on va certainement me reprendre dans l'énoncé quand je dis israélo-palestinienne, mais on a trouvé la solution, au moins ils sont deux à avoir trouvé la solution, Eric Kazan et Eyal Sivan, qui publient un ouvrage qui s'intitule « Un état commun entre le Jourdain et la mer ». Voilà, « Un état commun entre le Jourdain et la mer ». C'est un titre extrêmement subversif, pour beaucoup qui vous écoutent, les amis, et auquel vous tenez beaucoup, un état commun entre le Jourdain et la mer. On le sait, il y a deux entités qui ne sont pas vraiment des états. Il y a un état israélien, et puis à côté, il y a un territoire palestinien qui n'est pas un état palestinien. Et la solution unanime, tout le monde est d'accord pour dire la solution, allons vers deux États, voilà la solution. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Or, vous arrivez tous les deux, Eyal Sevan et Eric Hazan, avec ce petit bouquin de exactement 64 pages, où vous dites, on a la solution, c'est un État commun entre Palestiniens et Israéliens qu'il s'agit de construire. Alors c'est une idée qui revient quand même depuis pas mal d'années. Régulièrement, on a l'idée d'un État binational, d'un État, etc. À chaque fois, c'est « mais non, c'est impossible, vous savez bien ». Vous allez nous expliquer tout ça. Mais je voudrais savoir d'abord, quelle était l'intention de départ là-dedans ? On commence par qui ? Par Eric Hazan ?
L'intention de départ était d'ouvrir un débat. Parce que le débat sur l'État commun ou One State en Angleterre ou en Amérique, c'est un débat qui a lieu à peu près dans le monde entier, y compris en Israël, où le grand journal Haaretz a publié un numéro spécial, One or Two States, dans son édition anglaise. Donc c'est un débat qui a lieu en Allemagne, pays qui n'est pas sans avoir des relations particulières avec les Juifs, partout sauf en France. Donc, le but de ce livre était que ce débat ait enfin lieu en France, parce que il nous paraît être plus qu'important.
Alors, Eyal Sevan, dans le livre, on trouve un film, un DVD, État commun, conversation potentielle, où vous interrogez toute une série d'acteurs, enfin quand même, disons plutôt des intellectuels, palestiniens et israéliens, autour de ce thème. Et c'est très beau, l'écran est divisé en deux parties, et ils s'écoutent et se parlent. C'est une astuce de mise en scène, mais c'est particulièrement intéressant, excitant. On a là une densité de réflexion et d'intelligence, il faut quand même bien dire les choses, assez rare. Alors, pourquoi ce film et pourquoi ce bouquin ? Eyal Sevan.
Les points de départ des livres, comme l'a dit Eric, c'est cette volonté de inscrire un débat qui existe déjà par ailleurs et qui est complètement absent en France. Et pas seulement qui est absent en France, même les tentatives d'en parler, tout de suite se heurtent à des injonctions. Vous voulez la destruction de l'État d'Israël, c'est de néo-antisémitisme, comment on peut parler, il y a un consensus de deux États. Et donc s'inscrire dans un débat qui, au fond, comme Eric l'a dit, existe, mais plus qu'il existe, un débat qui a une histoire. C'est-à-dire, en parallèle à ces consensus généralisés deux États, il faut se rappeler que l'idée de la partage de la Palestine remonte à 1937 déjà. On commence à parler des partages de la Palestine en deux entités. Eh bien, ces débats-là, opposés à la partition, un partage, comme on dit, a une histoire. Et cette histoire est mal connue, des raisons évidentes. Donc, vous voulez inscrire les débats d'un côté, en France, mais on est parti avec plusieurs possibilités. Une possibilité, c'était faire un livre d'entretien. D'entretien avec ces gens, ces acteurs qui pensent. Et à un moment, on s'est dit, mais ce qu'ils font, c'est inscrire un petit peu de données, répondre à des questions qui se posent d'opposants, quand ils disent non, mais c'est pas possible. Donc, on a fait ces petits livres qui est sous forme un petit peu d'un état des lieux de manifeste. Et par ailleurs, on est descendu sur les terrains, c'est-à-dire on a dit, ben, on va écouter les gens. Donc, on a repris à travers les films l'idée de ces gens qui pensent au-delà de l'idée de la partition.
Il n'existe dans le monde aucun exemple de colonisation de peuplement qui se soit achevé par une partition du territoire.
Nadim Enrouana, professeur de sciences politiques à l'Université de Boston.
La raison est simple. Le peuple indigène ne peut accepter la partition de son territoire. Les Palestiniens n'ont jamais reconnu le plan de partition. Les Palestiniens ont fini par opter pour la Realpolitik et se sont résignés à la partition. Mais jour après jour, nous constatons que ce n'est pas viable. Même parmi nous, les Palestiniens, ceux qui défendaient corps et âme la partition et la solution de deux États, reconnaissent aujourd'hui, en privé, que ce n'est plus possible. Pourquoi reconnaissent-ils que la partition n'est pas possible ? À cause de la condition coloniale. Cette situation coloniale est le point de départ pour penser et analyser la situation et aboutir à des solutions. D'ailleurs, en Afrique du Sud, les Blancs ont fait plusieurs plans de partition, comme l'Afrikaner State sur le modèle de l'État juif. Mais ces propositions ont été rejetées, car impossible à mettre en place.
Alors vous vous posez une question dès le départ qui est, on vient de dire, tout le monde est d'accord pour aller vers deux États. On ira toujours vers deux États, on les fera peut-être jamais, on les fera probablement jamais, mais aller vers deux États, c'est l'état actuel de la situation. Et vous vous posez une question, qui a intérêt à aller vers deux États? Ce que vous constatez très vite, et ce que, sans vouloir vous offenser, n'importe qui peut constater, c'est qu'il n'y a pas deux États. Pour l'instant, il y a un seul État, il y a Israël d'un côté et un territoire occupé. C'est pour ça que quand on dit conflit israélo-palestinien, c'est déjà prendre une position, c'est imaginer, supposer qu'il y a deux forces égales. Or, il y a bel et bien un État d'Israël extrêmement puissant, avec des appuis que l'on connaît, et puis d'un autre côté, un territoire palestinien avec, et ça vous le soulignez très bien, une notabilisation de l'autorité palestinienne qui a tout à fait intérêt, elle aussi, à maintenir la fiction de deux États.
Tout le monde a intérêt à maintenir la fiction des deux États. Les Israéliens y ont intérêt parce que ça leur permet de maintenir les choses dans l'indétermination et dans le provisoire, ce qui est leur politique depuis 48. Pas de frontières et aucun engagement. Le fait de montrer qu'il peut y avoir un jour un État, qu'il y aura un État, oui, d'accord, ça les arrange. Ça arrange beaucoup l'autorité palestinienne. Ça lui permet de rouler avec des limousines à vitres teintées et de percevoir l'argent des pays donateurs. Ça intéresse vivement les États-Unis et l'Europe parce que ça leur permet de maintenir le statu quo avec bonne conscience. Et ça intéresse les pays arabes. Ça leur permet de soutenir, sans faire aucun frais, une solution dont ils savent très bien qu'elle n'aura jamais lieu. C'est idéal pour tout le monde, à l'exception du peuple palestinien.
C'est ça, vous dites un faux État palestinien est possible.
Oui, bien sûr, même, peut-être qu'il aura même lieu cette année. On peut déclarer à l'ONU que l'État palestinien existe, ce qui ne changera rigoureusement rien sur le terrain. Je veux dire, c'est vraiment comme si on déclarait que la fin du mauvais temps. Voilà. L'ONU pourrait déclarer la fin du mauvais temps ou la fin des catastrophes naturelles. Ça aurait à peu près le même impact.
تايه مش عارف اش بيصير يا دوب فتحت عينك طمعت يا دوب فتحت قلبك توشعت يا دوب انضميت إلنا شفتنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد قالك تكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد
Mais je voudrais quand même que vous précisiez, Eyal et Eric, vous dites un État palestinien véritable n'est pas viable, un État juif viable non plus, hein, ni l'un ni l'autre. Pouvez-vous expliquer un peu plus précisément pourquoi un État palestinien véritable n'est pas viable?
Un État palestinien n'est pas viable, ni à long terme ni à court terme, de la simple raison qu'il faut qu'on réfléchisse une seconde qu'est-ce qu'un État. Continuité territoriale, Niet, pas possible. Mm-hmm. Comment on relie l'État palestinien de la Cisjordanie avec Gaza, avec, il faut se rappeler, une partie du peuple palestinien qui est citoyen de l'État d'Israël aujourd'hui, à l'intérieur d'Israël, tout le nord, mais la majorité du nord du pays est habitée par des Arabes palestiniens, et la masse des réfugiés palestiniens qui font la grande partie du peuple palestinien. C'est-à-dire que d'abord, l'État, il a un problème de frontières. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'un enclave à l'intérieur d'Israël dans lequel le premier ministre d'État palestinien devrait avoir l'autorisation pour décoller avec son avion, comme il aujourd'hui demande l'autorisation de passer avec sa limousine, acquis au seul État souverain réel qui est l'État israélien. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. L'État palestinien, des points de vue de sa continuité. Deuxièmement, la question économique qui se pose à cet État. Exactement, complètement dépendant, comme il est aujourd'hui, d'une pompe à argent, tout, et dépendant de la frontière douanière israélienne et économique israélienne qui donne. Et comme ça, on peut continuer. Mais surtout, la grande question qui se pose à long terme à l'État palestinien, c'est que dans ces États palestiniens, il ne peut être que des zones morcelées par ce qu'on appelle la colonisation aujourd'hui. Cette colonisation qui fait, et c'est pas seulement la colonisation en Cisjordanie, qu'on construit des villes israéliennes aujourd'hui dans le nord des pays, c'est aussi une forme pour essayer de morceler la continuité à la fois, ce qu'on appelle démographique et géographique de cet État. Et c'est pour ça qu'il n'est pas viable, comme l'État israélien juif n'est pas viable.
Alors pourquoi l'État juif n'est pas viable non plus ? C'est quand même costaud quand vous dites ça.
À long terme.
Il y a pas mal d'oreilles d'auditeurs qui sont en train de se dresser. Oui.
Parce que l'État hébreu, l'État d'Israël... Son fondement, son ciment, sa base à la fois idéologique, matérielle et économique, c'est la guerre. C'est un État auquel la guerre est absolument nécessaire. Aussi bien pour la,
la cohésion.
La cohésion intérieure. Oui, sinon, oui, oui. C'est l'ennemi commun qui fait que cet État où il y a énormément de tensions peut continuer à exister.
Il faut dire que c'est très disparate. Il y a des populations extrêmement disparates à l'intérieur de ce qu'on appelle Israël.
Oui.
Il n'y a pas seulement des Arabes israéliens, il y a des Russes qui ne sont pas juifs, il y a tout un tas de populations différentes.
D'antagonisme.
D'antagonisme entre Ashkenaz, Séfarad, Ashkenaz pauvre, Séfarad riche, religieux, laïcs. À l'intérieur des religieux, il y a ceux qui sont devenus complètement nationalistes, il y a ceux qui sont restés religieux.
Et ça tient ensemble parce qu'il y a un ennemi commun. Mmh. Donc, il y a ce ciment, il y a l'économie israélienne, l'économie florissante. Elle est en grande partie fondée sur les exportations de matériel militaire, de matériel, de technologie et de pensée militaire. Israël fonctionne aujourd'hui comme un laboratoire de la répression pour tout un tas de pays, y compris les États-Unis, y compris la France. Et puis, il y a ce phénomène que, au fond, cette force militaire énorme, elle repose quand même sur un appui extérieur, essentiellement américain. Cet appui extérieur, il ne durera pas forcément toujours. À un moment donné, il est très probable que les Américains, juifs américains et gouvernements américains diront « Est-ce bien raisonnable de continuer à investir des milliards de dollars là-dedans ? Est-ce que ce n'est pas contre-productif ?» Ce jour-là, la force militaire israélienne sera très menacée, donc l'État israélien sera très menacé. Ça veut dire qu'un État fondé sur la guerre, y a-t-il des exemples dans l'histoire ? Qu'un État fondé sur la guerre...
Et duré longtemps. Je rappelle le titre de votre bouquin, Un État commun, entre le Jourdain et la mer, Eric Kazan et Yael Sivan. Avec le film de Yael Sivan, État commun, conversation potentielle entre ces intellectuels palestiniens et israéliens. Évidemment, on vous écoute depuis tout à l'heure, on dit ces deux gars sont sympathiques comme tout, ils sont très cultivés, très malins, ils étudient ça de près, ils sont tout à fait sincères, etc. Mais ils disent des grosses âneries, parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans votre État commun, les Juifs israéliens vont devenir une minorité dans leur propre pays, un pays qu'ils ont quand même construit, qu'ils ont voulu, et qui doit son existence à des pages extrêmement sombres de l'histoire de l'humanité. Et donc vous deux, visiblement, d'après le film qu'on peut voir dans si on achète le bouquin, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas si seul que ça. Il y a une tendance, donc, hein, qui a son histoire, qui est de, ben, finalement de faire disparaître cet État et de noyer ces Juifs dans une mer arabe qui les entoure. Voilà votre projet, Eric Kazan et Yael Sivan. Défendez-vous.
Je pense d'abord L'idée de noyade, elle est très ambiguë. D'abord, déjà, est-ce que l'État d'Israël n'est pas déjà noyé dans un océan arabe ? Ensuite, est-ce que les Juifs qui ne sont pas en Israël, qui sont dans le monde entier, la diaspora juive, n'est-elle pas noyée dans un océan, disons qui est grosso modo blanc chrétien, océan, dont l'histoire a montré qu'il n'est pas pour eux complètement dénué de danger ? Donc cette idée de noyade... C'est déjà le mot, c'est comme quand on dit « destruction de l'État d'Israël ». C'est un terme déjà très polémique, parce que c'est vraiment clairement une allusion à la destruction des Juifs d'Europe. Or, il ne s'agit pas de détruire les gens qui sont là-bas, il ne s'agit pas de détruire une société. Évidemment que cette société israélienne dont vous parliez, elle existe, c'est un fait accompli. Il n'est pas question d'y revenir, mais il ne faut pas confondre la fin d'un État et la fin d'une présence juive en Palestine. La présence juive en Palestine, c'est un acquis auquel il n'est pas question de renoncer. Et dans l'État commun, la principale tâche d'un État commun sera d'assurer les droits collectifs des Juifs dans l'État commun.
C'est-à-dire que, malgré tout, Eyal, les Juifs, dans ce projet que vous soutenez, encore une fois, vous n'êtes pas seul sur cette idée, les Juifs deviennent une minorité dans leur propre pays, avec des droits, avec... on va respecter, bien évidemment, enfin, la société, la culture, les acquis, etc. Mais ils deviennent une minorité. C'est-à-dire que c'est plus un État, il n'y a plus un État juif, il y a, comment dire, un peuple qui demeure là.
La fin de l'apartheid en Afrique du Sud ne voulait pas dire la fin de la présence blanche dans l'Afrique du Sud. Au contraire, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, d'une certaine manière, était le point de départ de réfléchir à un avenir à la minorité blanche. Quoi qu'il en soit, de quelle façon qu'on le regarde, nous, les Juifs israéliens, d'autant plus nous, les Juifs israéliens ashkénazes européens, nous sommes une minorité à l'intérieur de la minorité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on joue de football à la Coupe d'Europe, parce qu'on chante dans l'Eurovision et parce que nous avons derrière nous les accords de privilège avec l'Europe que ça fait que nous ne sommes plus dans le Moyen-Orient. C'est vrai qu'actuellement, Israël se positionne comme un État européen face à l'Orient. Et la question, c'est l'intégration, je dirais même la réintégration des Juifs dans le monde arabo-musulman, qui a une histoire. Il n'y a pas que l'histoire de Juifs en Europe. Il y a aussi une histoire de Juifs dans le monde arabe, qui est par ailleurs une histoire un petit peu différente. Et si on mettrait un petit peu plus l'accent, peut-être le passé, je dirais, des points de vue juifs. Depuis quand être juif et minoritaire pose un problème ? Regardons la situation actuelle. Les seuls pays au monde dans lesquels les Juifs sont en danger permanent parce qu'ils sont juifs, c'est dans l'État juif. C'est-à-dire l'État qui est supposé à les protéger. C'est-à-dire que l'État juif n'est pas une garantie pour les droits des Juifs. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut un petit peu décaler les débats. Ce n'est pas la question de quels sont les droits des Palestiniens, quels sont les droits des peuples indigènes. Mais la vraie question qui se pose devant nous dans l'avenir, c'est la question des droits des Juifs. Les droits des Juifs dans le monde arabo-musulman et dans la Palestine, qui sont extrêmement problématiques, parce que depuis 60 ans, nous ne sommes pas seulement des Juifs israéliens, nous sommes aussi l'oppresseur et les bourreaux, et donc ça veut dire, dans l'avenir, réfléchir aux droits de l'oppresseur et des droits des bourreaux.
Ce que vous évoquez dans le bouquin, c'est effectivement les Juifs séfarades venus du Maroc, dans des conditions souvent bien douloureuses pour eux, et qui persistent bien souvent, ont une proximité déjà ancienne, culturelle, avec le monde arabe. Et vous évoquez, à travers le commerce, à travers un tas d'échanges, y compris dans la délinquance avec le commerce de la drogue, etc.
Des voitures volées.
Les voitures volées, tout un tas d'échanges et de proximité qui posent aucune espèce de problème d'opposition. Donc votre état commun, c'est l'état des voleurs séfarades, quoi, en fait.
Non, l'état commun. D'abord, il y a une question, je pense que les livres, ça c'est quelque chose qui nous a été important, c'est la question de principe de réalité. Il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a un État souverain sur l'espace palestinien historique, dans lequel il y a deux groupes sociaux qui habitent, 5,5 millions de Juifs israéliens et 5,5 millions des Arabes palestiniens. Ça c'est la réalité. Maintenant, il y a ceux qui pensent que cette réalité peut être divisée en deux entités étatiques. Nous parlons d'une transformation de cette réalité. Et dans cette réalité, il y a dans les quotidiens, comme il y a partout, il y a des échanges, il y a des cohabitations heureuses et malheureuses, il y a des gens qui s'échangent, il y a des voitures qui se volent et des délinquants, comme il y a aussi des commerçants. Tous les jours, dans les territoires occupés, il y a les produits israéliens. Les shekels, l'argent israélien, c'est l'argent qu'on utilise, même en Gaza, qui est une entité hostile. C'est-à-dire, il y a un État
déjà,
qui a une
déjà,
monnaie.
Déjà,
donc,
oui,
la question,
oui,
c'est la confusion entre deux notions, État et pays. Il y a, sur les pays qu'on appelle la Palestine ou Eretz Israël, il y a aujourd'hui un État qui s'appelle l'État d'Israël. La question, comment on transforme cet État-là dans un État qui sera commun aux Israéliens et Palestiniens.
Depuis 25 ans,
Meron Benvenisti.
Le découpage territorial s'analyse en termes géopolitiques.
Politologue à Jérusalem.
Mais il s'agit pourtant d'un même espace commun. Les découpages territoriaux, genre ligne verte, sont de pure fiction. La ligne verte, par exemple, est psychologique. Et le mur, sa traduction physique. Parce qu'en réalité, ça fait longtemps que tout ça a été annexé. Et annexé selon les conditions israéliennes. Annexé pour les Israéliens ou occupé pour les Arabes. Et si la situation perdure, c'est parce qu'elle est considérée comme provisoire. Et ceci par tout le monde, y compris la gauche. Comme ça, on évite le dilemme. Si c'est provisoire et si c'est une occupation, elle prendra nécessairement fin.
Vous répondez dans le bouquin à un tas de questions que vous vous posez et qu'on va vous poser à travers tous les débats que vous allez mener à la suite de ce bouquin, et des questions qui sont récurrentes dès qu'il s'agit d'État commun, d'État binational. Et par exemple, la question suivante, l'existence d'un État juif avec son armée et son arsenal nucléaire est le seul véritable garant contre un nouvel Auschwitz. Qu'est-ce que vous répondez à cette question que vous vous posez, ou qu'on va vous poser et ce qu'on pose très souvent?
Eyal l'a dit, le seul endroit au monde aujourd'hui où les Juifs soient véritablement en danger, c'est l'État d'Israël. Par conséquent, toute cette panoplie, au fond, n'est pas du tout une garantie. Je pense que, déjà, l'idée de penser à un nouvel Auschwitz, tout ça, c'est vraiment une pensée d'une autre époque, d'un autre temps. C'est pas du tout une ouverture à l'avenir. Et de toute manière, il est clair, dès maintenant, dès aujourd'hui, dès les actualités, il est clair que cette formidable force militaire n'est pas une garantie et qu'elle est suspendue, comme on l'a dit, à l'aide extérieure et que par conséquent, c'est plus dangereux qu'autre chose. D'ailleurs, les Israéliens en sont parfaitement conscients puisque nous indiquons dans le livre que le nombre de citoyens israéliens qui demandent aujourd'hui d'avoir la double nationalité, d'avoir des passeports pour des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme la Pologne, c'est plusieurs dizaines de milliers par an. Donc les Israéliens ont bien conscience que ce pays, tout surarmé qu'il soit, est un endroit dangereux.
Eyal, si on faisait aujourd'hui un grand référendum concernant tout le monde, hein, Palestiniens, Israéliens, petits Palestiniens de base et, comme disait Eric Azan, ceux à l'autorité palestinienne croulent sous le pognon des généreux donateurs. Et du côté israélien, on a évoqué la mosaïque incroyable de ce pays. Est-ce qu'on a fait un référendum pour demander à tout ce monde-là, voulez-vous vivre ensemble ou voulez-vous vivre séparés?
Justement, ce n'est pas une des questions qui est posée. La question qui sont posées, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre deux États? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour ou contre un État palestinien? C'est ça qu'on pose comme question. Mais cette question-là, justement, n'est pas posée. Elle ne fait pas partie. On ne sait pas la réponse. Les seules choses qu'on peut être sûr...
Attends, c'est pas difficile à organiser, ça.
C'est pas difficile à organiser. Et d'ailleurs, justement, il y a une initiative palestinienne de base qui, aujourd'hui, essaye, justement, de faire un recensement d'abord de qui sont ceux qui parlent. Quand on parle palestinien, on pense à ceux qui habitent Cisjordanie et la bande de Gaza. Mais eux, ils ne représentent qu'un tiers du peuple palestinien. Si on poserait la question aux réfugiés, les réfugiés, leur question, c'est pas s'ils veulent un État palestinien. Leur question, c'est comment rentrer. Et il y a une autre question qui se pose. C'est que, au sein de la société israélienne et au sein, je dirais, de la société juive sioniste en dehors d'Israël, on est sûr d'une chose. Ceux qui sont contre l'idée d'un État commun, binational, un État unique, sont les cons de la paix. C'est-à-dire que le cons de la paix, il est sûr qu'il est pour deux États. Il y a deux États. Mais on pourrait s'imaginer que, par exemple, les colons habitant en Cisjordanie, quand on les posera la question, ils diront non, pourquoi deux États ? Pourquoi ils accepteront leur propre transfert,
par exemple ? Mais oui.
Donc, la question d'un État aux deux États, qui pour nous n'est pas justement deux options, nous considérons, et nous répétons dans les livres à plusieurs reprises, que les deux États n'est pas une solution, mais n'est qu'un discours qui permet de garder les statu quo. Mais la question d'un État unique, des différentes raisons et des différents horizons, il y a des gens qui peuvent y adhérer. Non pas seulement ceux qui sont, soi-disant, les cons de la paix.
Une des questions qu'on va vous poser et que vous vous posez, c'est la question de la libanisation. Est-ce que votre État commun ne risque pas de ressembler à plus ou moins long terme au Liban, parce que on va faire un grand État commun, et puis on va voir se développer tout un tas de communautés. Est-ce que c'est gérable, Éric Hazan ? Le Liban, c'est juste à côté d'Israël.
Hein ? Oui, je pense que l'exemple du Liban, qui est un exemple évidemment très cruel, en réalité, il est dû à des ingérences extérieures. La catastrophe est due à des ingérences extérieures. Et il y a des exemples de pays où des communautés très différentes, où des gens de langue et de culture très différentes fonctionnent depuis très longtemps. Je vais à la Suisse. C'est intéressant, la Suisse. Les cantons suisses. Eh bien, il y a aussi des exemples où des pays divisés sont en train de se réunifier, comme Chypre.
Juif. Arabe. Juif. Juif, arabe, arabe, juif, juif, arabe, arabe, juif, juif, arabe, arabe.
On continue avec Éric Hazan et Yael Sevan, un bouquin de 64 pages, un état commun entre le Jourdain et la mer, avec le film d'Eyal Sevan, composé de dialogues entre des intellectuels palestiniens et israéliens, et un bouquin évidemment qui va faire du bruit entre le Jourdain et la mer, c'est les deux lignes bleues du drapeau israélien. L'une des lignes bleues, c'est la mer, l'autre c'est le Jourdain, et au milieu, il y a une étoile bleue qui représente Israël. Et on ne voit pas sur ce drapeau de présence palestinienne. Voilà. Et votre idée, ben, c'est que effectivement, qu'on garde les deux bandes bleues, mais qu'entre les deux bandes bleues, on est voilà, aussi bien juif israélien, palestinien, dans un même et seul État commun.
Il y a une de figure historique de mouvement anticolonial israélien qui est Chaim HaNegbi, qui dit dans le film.
À mon avis, les juifs israéliens ont trois problèmes sérieux.
Chaim HaNegbi.
Trois problèmes qu'ils ne veulent absolument pas voir en face.
Journaliste à Tel Aviv.
Et la solution à ces problèmes exige une révolution. Une révolution profonde. Ces problèmes sont
1.
Les Palestiniens étaient déjà là. 2. Les Palestiniens sont toujours là. 3. Les Palestiniens seront toujours là. Alors il y a les aspects économiques, sociaux, historiques, culturels. Mais le problème est là. Et à partir du moment où les Israéliens ont enfin compris que ces trois problèmes n'en font qu'un, alors ils réaliseront qu'ils doivent vivre avec les Arabes sur un pied d'égalité.
Une des choses, c'est s'imaginer que ce n'est pas en fermant les yeux que ça change la réalité. C'est peut-être l'avantage d'être un cinéaste documentariste. C'est-à-dire qu'on doit faire avec ce qu'il y a, non pas avec ce qu'on aimerait qu'il soit. Oui. Israéliens et Palestiniens vivent ensemble aujourd'hui dans les espaces communs. Ils vivent ensemble, ils vivent très mal ensemble. La question c'est comment ils vivront mieux. N'est pas si ils vivront ensemble. C'est oui. Comment vivront-ils?
Parce qu'on va prendre votre bouquin pour une utopie. On va dire, après tout, c'est votre travail d'intellectuel de nous faire des utopies. Et en fait, non, pas du tout. Ce que vous affirmez dès le départ, nous sommes des pragmatiques. Nous prenons les faits accomplis. Nous constatons ce qu'il y a. Nous remontons pas bien loin dans l'histoire. Nous voyons les choses comme elles sont. Par exemple, effectivement, les colonies qui sont implantées en Cisjordanie depuis longtemps, tous ceux qui militent pour un État palestinien parce que ce sont les offensés, ce sont les dominés, et qui doivent avoir un État, on leur dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces colons qui sont là? Il faudra bien, l'État palestinien étant créé, leur trouver une place. Et on ne va pas transférer à nouveau ces villes habitées par ces colons. Donc il faudra composer avec eux.
Je reviens sur vos dernières phrases sur les colons. Là où ils vont aller, mais c'est là où ils sont. On ne les bougera pas. Dans l'État commun, les colons, ils restent où ils sont. Il n'y a aucune raison, du reste, de les punir, ces gens-là. Parce que parmi eux, les fous furieux, les extrémistes...
Ils sont minoritaires.
Très minoritaires. La plupart des colons, ce sont des colons économiques. C'est des pauvres diables qui arrivent d'ici, de là, de l'Ukraine. Ils arrivent à Tel Aviv et on leur dit « Vous avez de quoi vous payer un appartement là au bord de mer ?» Ils disent « Non. Ben alors, voilà, on a un truc pour vous là-bas dans la colonie.
» Oui, c'est voilà. Ça.
Donc, ces gens-là, c'est des pauvres gens. Il n'y a aucune raison de les punir. Ils resteront où ils sont. Et je voudrais dire un mot, Daniel, si vous permettez, sur la notion d'utopie. Qu'on nous balance toujours à la figure dès qu'on parle de l'État commun, mais c'est une utopie. C'est sympathique, c'est bien, vous êtes gentil, mais c'est une utopie. Mmh. L'utopie, c'est les deux États. La solution des deux États, je mets solution avec deux paires de guillemets, c'est pas facile à la radio, mais voilà. La solution des deux États, ça fait maintenant, depuis 1937, comme a dit Eyal, ça fait plus de 60 ans, 70 ans, trois quarts de siècle, qu'elle est en route. Et qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas avancé d'un pouce, elle n'a pas avancé d'un pouce, et même elle a reculé. Mmh. Donc une solution qu'on vous propose depuis trois quarts de siècle et qui n'avance pas, qu'est-ce que c'est? C'est une utopie. Et il y a une autre raison qui fait que la solution de l'État commun n'en est pas une utopie, c'est que beaucoup de gens la considèrent aujourd'hui, aussi bien les Américains que surtout le gouvernement israélien, disent c'est une menace. Il y a nombre de déclarations de gouvernants israéliens qui disent « Oui, mais alors si les deux États ne marchent pas, alors on va aller vers l'État commun. Ça va être la catastrophe. » Donc, il faut choisir. Est-ce qu'une utopie peut être une menace?
J'ai sous les yeux un livre de Guillaume Weil-Reynal qui vient de sortir chez Signe, édition du Signe, et dont le titre dit beaucoup de choses, Israël-Palestine, l'impossible débat. C'est un livre qui s'adresse, on a compris, à un public français. et on est en train de parler d'un sujet, on sait très bien là que c'est un sujet délicat, on avance un petit peu sur des œufs, et vous parlez des juifs de la diaspora, dont un certain nombre écoutent la basse, j'y suis actuellement très attentivement.
Et prennent note.
Et vous parlez d'Israéliens imaginaires. Vous évoquiez la pression et les forces d'inhibition sur ce débat constitué par une partie des juifs de la diaspora. On peut évoquer la France, on peut évoquer les États-Unis.
Je pense qu'on ne peut pas mettre au même plan la France et les États-Unis. Il y a à moins exactement une des universités les plus importantes aux États-Unis, si ce n'est pas une des universités les plus importantes au monde, qui est Harvard, université centriste, ça, organise un grand débat au centre Kennedy, qui étude pour politique, l'administration politique, sur One State Solution, un État. C'est-à-dire que Harvard donne une salle pour discuter de ces débats extrêmement controversés. En France, je fais le pari qu'on ne pourra pas trouver une salle pour en discuter de ces choses-là. Et on ne trouvera pas une salle, non pas parce que les juifs de la diaspora ou la communauté française, comme on dit, empêchera les choses, parce que l'autocensure en France, l'autocensure, moi je défends l'idée qu'on n'empêche pas des débats en France autour de ces sujets, parce qu'il y a des pressions. Les pressions, ils sont les petits flics qu'il y a à l'intérieur de la tête des gens eux-mêmes. Qui, en France, il y a des sujets qu'on ne peut pas parler autour d'Israël. Et pourquoi ? Une partie, c'est cette idée que j'ai revendiqué, qui est l'israélien imaginaire. Certains auditeurs se souviennent que dans les années 80, certains intellectuels français parlaient des juifs imaginaires. Les juifs imaginaires ne suffisent pas aujourd'hui, c'est-à-dire ces juifs qui s'est inventé, qui n'a rien des juifs, mais il s'est inventé autant que juif. Et aujourd'hui, ils se projettent, certains, dont ces israéliens imaginaires. C'est quoi l'israélien imaginaire ? C'est fer de lance blanc en Orient. C'est l'idée que, voilà, il est comme nous. Comme a dit Netanyahu au secrétaire général du Parlement européen, elle a dit « Nous et vous, c'est la même chose. » C'est-à-dire « Nous, en Israël, c'est la même chose. » Où naît les fronts face à la barbarie. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui en Israël. Et ça, c'est de l'imaginaire. Ça, c'est de pur imaginaire. Parce que ça veut dire que d'une certaine manière, il y a pas mal de gens, dont Israéliens imaginaires, qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier des Israéliens pour que l'idée de l'État d'Israël survive.
On va finir cet entretien avec Eyal Sevan et Eric Hazan, avec le dernier chapitre du bouquin, que je vous conseille vraiment parce que c'est, pour une fois, les intellos ont essayé d'être très clairs, très denses. C'est un petit manuel, hein, ce bouquin, qui finit avec chapitre 7, thèse sur l'État commun. Et c'est très joli le début de ce chapitre-là. Entre le Jourdain et la mer, il existe un petit pays dont l'unité est évidente sur une carte et encore plus quand on la traverse. Ses frontières sont clairement dessinées. Ses ressources naturelles, l'eau en particulier, sont impossibles à diviser. Les différentes populations qui y vivent sont si imbriquées qu'il faudrait de massifs transferts pour créer des entités ethniquement homogènes. Cette unité n'a pas pu être effacée par les faits accomplis, immigration, conflits armés, colonisation. Si les plans de partition ont tous échoué, c'est pour avoir nié la réalité en ignorant cette unité du pays, et le déni de réalité entraîne la ruine à terme de tout projet, quelle que soit la puissance de ceux qui le soutiennent. Voilà, là on a une leçon ramassée par les deux professeurs, Eric et Eyal, sur ce projet. C'est bien d'être clair pour une fois, d'être clair, dense et concis.
Talleyrand disait, on peut faire tout avec des baïonnettes,
sauf s'asseoir dessus. Un état commun entre le Jourdain et la mer, vous avez compris, Eric Hazan et Eyal Sevan, avec le film d'Eyal Sevan qui est particulièrement passionnant. C'est plutôt un DVD à regarder avec un crayon à la main, parce que c'est tellement dense, les interventions des uns et des autres sont tellement denses, mais absolument passionnantes. Et puis d'autres bouquins sur ce sujet. J'ai évoqué le bouquin de Guillaume Weil-Reynal, Israël-Palestine, l'impossible débat. Donc ça concerne la France, édition du Cygne. Et puis un livre dont on parlera prochainement dans La Basse J'y suis, de Dominique Vidal et de Michel Warchavski, Un autre Israël est possible, 20 porteurs d'alternatives suite aux indignés. Vous vous souvenez, le mouvement des indignés en Israël? Eh bien, Dominique Vidal et Michel Warchavski font le portrait d'une série de protagonistes israéliens vers un autre Israël, peut-être. Alors, cet Israël dont rêvent les autres, d'un État commun. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Sur ces deux sites, vous pouvez écrire des réactions, vos messages. Et puis, on peut se retrouver sur la page Facebook de l'émission. Hier, on a dépassé le cap des 9000 sur Facebook. Oh là là, quelle aventure! À la technique aujourd'hui, Vincent Godard et Alice Berger, Bertrand Chompton et Franck Adéret ont réalisé cette émission, assisté de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de La Basse J'y suis au 01 56 40 37 37. Il va falloir arrêter, mais ce qu'on entend derrière moi est magnifique. Hein, pub.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
France Inter, partenaire de l'exposition Le Crépuscule des Pharaons, au musée Jacques Marandré à Paris jusqu'au 23 juillet. Pour la première fois, une exposition rassemble les chefs-d'œuvre du dernier millénaire de l'histoire pharaonique, prêtés par les plus grandes collections internationales. Ces pièces exceptionnelles vous dévoilent la richesse et la diversité de la création artistique après les derniers Ramsès. Le Crépuscule des Pharaons, une exposition à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Du 19 au 22 juillet, les super-héros débarquent aux Vieilles Charrues. Pour la 21e édition du festival, retrouvez une programmation exceptionnelle. Avec Sting, Metronomy, Justice, The Cure, mais aussi Tiefen, Selassou, Chinese Man, Holly Cook. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
C'est Gilad Atzmon à la clarinette. On le retrouvera sans doute bientôt dans les émissions de Là-bas si j'y suis. À demain, 15h pour Là-bas. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Les putschistes du Mali promettent aujourd'hui de ne pas se présenter à de futures élections et ils joignent la parole aux actes en promulguant une nouvelle constitution qui l'affirme. Cette nouvelle loi fondamentale ne donne toutefois pas de date pour de nouvelles élections, mais elle a été promulguée quelques heures après seulement la suspension du Mali par la CEDEAO. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis hier en Côte d'Ivoire et ils ont menacé de sanctions, voire d'un recours à la force contre le nouveau régime pour le convaincre de rétablir l'ordre constitutionnel. Une délégation de la CEDEAO est d'ailleurs arrivée aujourd'hui sur place à Bamako pour y préparer la venue des chefs d'État de la région qui a prévu de discuter avec la junte militaire au pouvoir depuis la semaine dernière. À Bagdad, en Irak, les chefs de la diplomatie arabe travaillent actuellement à un plan sur le dossier syrien, plan qui doit être approuvé demain par les chefs d'État de la Ligue arabe. À ce propos, Omar el-Béchir, le président soudanais, sera présent demain et ce malgré le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Pas d'Orel San au Festival de musique de l'île de la Réunion. Le président UMP du Conseil régional, Didier Robert, a déclaré aujourd'hui avoir refusé de subventionner le plus grand rendez-vous de musique de l'île pour cette raison. Il accuse le rappeur d'appeler à la haine, au viol et à la pédophilie. Didier Robert assure avoir reçu pour ça le soutien de l'opposition régionale sur ce dossier de 150 000 euros quand même. Il y a 3 ans, Orel San avait provoqué la polémique avec le titre « Sale pute » décrit comme une incitation à la violence envers les femmes. Plusieurs de ses concerts avaient dû être annulés. Depuis, l'artiste s'est excusé. excusé. On reste à La Réunion pour la campagne présidentielle. Contrairement au PC en métropole qui soutient Jean-Luc Mélenchon, le PC réunionnais annonce aujourd'hui son soutien à François Hollande. La réponse que nous avons reçue de lui sur notre projet de développement va dans le sens que nous souhaitons, a déclaré Élie Hoareau, le secrétaire général du PCR. Le candidat socialiste est attendu dimanche sur l'île. Toujours à propos de la présidentielle, près d'un Français sur deux estime que son vote pourrait être influencé par les propositions des candidats pour faire baisser les prix des carburants. C'est ce que révèle une enquête réalisée pour le magazine spécialisé LSA à paraître demain. Ce matin, le ministre de l'Énergie, Éric Besson, a confirmé la proposition de Nicolas Sarkozy. À la demande des États-Unis, le président candidat envisage de puiser dans les stocks stratégiques de la France pour faire baisser le prix du carburant. On attend maintenant la décision de l'Agence internationale de l'énergie. La CGT d'Air France appelle aujourd'hui à faire grève demain et vendredi à Toulouse. Demain, lors de la visite du patron de la compagnie aérienne, Alexandre de Juniac, et vendredi à l'occasion du CCE sur la révision des accords d'entreprise. Un homme a été interpellé aujourd'hui à Lyon après le braquage en plein jour d'une bijouterie dans le centre-ville. Le braqueur portait la tenue de policiers municipaux. Son complice, lui, a réussi à prendre la fuite. Enfin, des sans-abri occupent aujourd'hui leur centre d'accueil de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Il dénonce sa fermeture programmée le 2 avril prochain, avant, avec justement donc la fin du dispositif hivernal. Vous écoutez France Inter, 16h03.
À partir de 21h, France Inter vous offre toute une soirée avec Thomas Dutronc en direct de l'Olympia.
Comme un marbre sans guitare, comme un château sans la noix.
Un événement exceptionnel présenté par Alexandre Hérault et Tania de Montaigne.
Alexandre, si je vous dis tournée triomphale, deuxième album, guitare, vous me répondez ?
Le nouveau spectacle de Thomas Dutronc.
En direct de ?
La plus mythique des salles parisiennes.
Est-ce que vous êtes fort ?
Je me suis réveillé ce matin.
Thomas Dutronc en live sur France Inter. Une soirée unique en direct de l'Olympia à suivre vendredi à partir de 21h. France Inter.
La différence.
Allez, c'est à vous, Frédéric Lodéon.
Avec plaisir, Laetitia.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Elle est charmante, elle sourit, a son violon devant elle, c'est Isabelle Faust. Et le titre, sa rencontre au sommet avec Claudio Abbado, ah oui, ça n'est pas People, c'est un magazine qui adore la musique. Diapason, notre partenaire qu'on va feuilleter si vous voulez bien. Et nous avons décerné un Diapason d'or France Inter à un disque mené par Nicolas Arnoncourt, ça s'appelle La Révolution de la Valse. Et oui, la musique à trois temps n'a pas tout de suite trouvé son chemin tournoyant avec les Strauss. Il y a eu déjà des pièces comme des contredanses, on entend une contredanse de Mozart, country dance donc en anglais, qui signifie danse de la campagne. Et puis après Strauss, Lanner, tous ces gens ont fait vraiment tournebouler la tête, les cœurs aussi des amoureux de la musique et des belles figures dansées. Contredanse en ut donc, menée par Nicolaus Arnoncourt avec son Concentus Musicus de Vienne.
Thank you.
Contredanse en ut de Mozart, interprétée par le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par le pape de la musique ancienne, en principe, mais il ne fait pas que ça, la preuve, Nicolaos Arnoncourt, donc un disque très intéressant qui nous montre l'évolution de la musique depuis les Ländler du temps de Schubert aussi, ces musiques de paysans. On dansait, et puis on a dansé de plus en plus vite, et c'est devenu la valse, c'est un disque presque musicologique aussi. Et nous avons décerné un autre diapason d'or France Inter à ce coffret que j'ai déjà cité ici, Guido Cantelli, fameux chef d'orchestre mort à 36 ans dans un accident d'avion, disciple de Toscanini le Grand, ben voilà des enregistrements qui nous rappellent qu'il aurait pu avoir une carrière mirifique, mais déjà ces gravures de studio nous stupéfient par leur maîtrise technique et la magie des timbres, dixit diapason, donc ils sont bien censés de le dire. Voici un extrait de Fête. Fête, c'est tiré le même des Nocturnes de Claude Debussy. Et ces Nocturnes, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que il semblerait en tout cas que ce soit une idée de Debussy qui aurait vu une série de tableaux du peintre Whistler, un ami de Mallarmé, et Debussy appréciait particulièrement cette œuvre. Bon, peut-être, vous savez, les titres, quelquefois, ne sont pas absolument fondés sur des réalités. Heureusement, l'imagination reste reine.